VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie pour vous présenter le monde aujourd'hui en ce mardi 2 août 2022. Le titre que nous avons développé ce soir. En République démocratique du Congo, 32 protestataires et 4 casques bleus tués en une semaine de manifestations anti-ONU. Au Kenya, des ONG appellent à des élections pacifiques à une semaine de la présidentielle. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, est partie à Taïwan malgré les sévères mises en garde de Pékin et de Moscou. Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a été tué par Washington dans une frappe aérienne à Kaboul. Et puis, à venir d'environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels, la minute de l'économie et la chronique sportive. En République démocratique du Congo, 4 casques bleus et 32 protestataires ont été tués dans deux manifestations contre la présence onusienne dans plusieurs villes du pays. C'est le dernier bilan officiel, alors que le précédent était d'au moins 19 morts. Le point avec Nani Talani.
La mission gouvernementale spéciale détaille ce bilan à 13 morts à Goma, 13 à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 à Uvira, 3 à Kanyabaonga et 3 à Kasindi. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue d'une réunion de crise, ajoute qu'il y a eu près de 170 blessés. Selon lui, des incidents graves et outrageants ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC à Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda. Dimanche, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant de forcer la barrière pour traverser la frontière à Kasindi. 2 personnes ont été tuées sur place et 15 blessés, dont un a succombé à ses blessures. Depuis le 25 juillet, des manifestants protestent contre la présence onusienne accusée d'inefficacité contre les groupes armés et ont saccagé et pillé des installations de la MONUSCO à Goma et Butembo.
Toujours en RD Congo, l'armée affirme avoir tué hier au moins 11 membres des ADF. Ce sont les forces démocratiques alliées accusées d'avoir massacré depuis 2014 plusieurs milliers de Congolais dans l'est du pays. Des combats ont également eu lieu hier avec un autre groupe armé, les Mai Mai Mazembe. Ils se sont déroulés dans le territoire de Lubero où 8 rebelles ont été neutralisés, toujours selon l'armée qui ajoute que 2 soldats sont tombés au champ d'honneur. Au Sénégal, poursuite du décompte des voix après les élections législatives de dimanche que les camps du pouvoir et de l'opposition revendiquent avoir remporté, les 46 commissions départementales de recensement des votes et les 8 circonscriptions à l'étranger doivent publier leurs résultats au plus tard mardi à minuit. Les documents vont ensuite être remis à la Commission nationale de recensement des votes pour la divulgation des chiffres globaux provisoires au plus tard vendredi. Au Niger, le chef de l'État Mohamed Bazoum a reçu aujourd'hui le nouveau commandant de la force française Barkhane, le général Bruno Baradze, venu le remercier pour le soutien de Niamey à Paris. Nous quittons le Mali et nous avons besoin de sortir énormément de matériel que nous avons amassé pendant 8 années d'opération dans ce pays, a dit le général Baradze, cité dans un communiqué de la présidence nigérienne. Au Kenya, des ONG, de même que la société civile, appellent à des élections pacifiques et transparentes à une semaine d'une présidentielle à forts enjeux pour ce pays, maintes fois meurtri par des troubles post-électoraux. Davantage avec Eric Manirakidza.
Pour recenser les incidents éventuels dans les plus de 46 000 bureaux de vote, des groupes de la société civile ont lancé un site internet au chagozi.or.ke destiné à collecter et géolocaliser des incidents avant, pendant et après les élections. Selon la directrice de Ushahidi, plateforme de partage de l'information, c'est aussi pour encourager les citoyens ordinaires à participer activement afin de garantir un résultat libre et équitable. Si la campagne n'a pour l'instant été émaillée que d'échauffourées sporadiques, les craintes demeurent que plus d'incidents n'éclatent. Les poches de tension ou anomalies susceptibles de perturber le processus électoral peuvent être signalées via des SMS et des services téléphoniques gratuits ou sur les réseaux sociaux. Une équipe vérifiera notamment la véracité des faits évoqués grâce à des centaines de volontaires sur le terrain, aux côtés de dizaines d'observateurs internationaux. Marqué par le vote communautaire, le Kenya et sa quarantaine d'ethnies a en effet à plusieurs reprises souffert de violences post-électorales.
Également dans l'actualité, le rétablissement des services essentiels au Tigré est indispensable. D'après les envoyés spéciaux américains et européens pour la Corne de l'Afrique, de retour de cette région éthiopienne, les combats entre les troupes fédérales et les rebelles du Tigré ont cessé depuis mars dernier, mais la région est coupée du reste de l'Éthiopie et elle est privée depuis plus d'un an d'électricité, de télécommunications et de services bancaires. Annette Weber et Mike Hammer ont effectué leur première visite à Mekele, la capitale régionale, pour encourager les pourparlers entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré sous les auspices de l'Union africaine, d'après un communiqué publié aujourd'hui.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Malgré les mises en garde de Pékin et de Moscou, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants, est arrivée à Taïwan aujourd'hui, provoquant la réaction immédiate de la Chine, qui menace de recourir à des actions militaires ciblées. Le point avec Abdourahman Zia.
Peu après l'atterrissage de l'avion du gouvernement américain qui l'a transporté, Nancy Pelosi a affirmé dans un communiqué que sa visite à Taïwan démontre le soutien inconditionnel des États-Unis. Le troisième personnage de l'État américain a toutefois précisé que cette visite ne contrevenait d'aucune façon à la politique de longue date des États-Unis vis-à-vis de la Chine, dont la réaction n'a pas tardé. Pékin annonce des actions militaires ciblées en réponse à cette visite de Pelosi à Taïwan et dénonce aussi l'attitude qu'elle juge extrêmement dangereuse. Les États-Unis tentent d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine, a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Washington ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine. Ces actions, comme pour jouer avec le feu, sont extrêmement dangereuses, poursuit le ministère chinois. Ce mardi, Moscou a apporté son soutien à la Chine, mais hier, la Maison-Blanche a appelé la Chine à la retenue, estimant qu'elle poursuivait sa politique d'une seule Chine.
Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a été tué au cours du week-end dans une attaque au drone menée par les États-Unis. C'est ce qu'a révélé hier soir le président américain Joe Biden. Il s'agit du plus important revers apporté au groupe islamiste depuis l'assassinat de son fondateur, Oussama Ben Laden. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Ayman al-Zawahiri, chirurgien égyptien, est considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui ont fait près de 3000 morts. Justice a désormais été rendue et ce chef terroriste n'est plus, a déclaré Joe Biden au cours d'un discours depuis la Maison-Blanche. Il s'agit de la première frappe menée par les États-Unis en Afghanistan depuis le retrait américain l'été dernier. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a confirmé qu'une frappe s'était produite, la dénonçant comme une violation des principes internationaux. Mais certains Afghans doutent toujours de l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda, caché depuis des mois, voire des années, au cœur de la capitale afghane et peut-être même pendant l'occupation américaine. Je ne pense pas que ce soit vrai, c'est juste de la propagande, a su Fahim Shah, 66 ans, un habitant de Kaboul. Ayman al-Zawahiri était l'un des hommes les plus recherchés par les États-Unis, qui avait mis à prix sa tête pour 25 millions de dollars. Son ancien patron Oussama Ben Laden a été tué au Pakistan en 2011.
Ailleurs dans l'actualité en Irak, les partisans du leader chiite Muqtada Sadr ont été appelés aujourd'hui à évacuer le Parlement à Bagdad et à poursuivre leur mouvement de protestations à bord du bâtiment. Ils occupent le Parlement depuis samedi pour manifester contre la candidature d'un Premier ministre proposé par des factions rivales pro-iraniennes. Le chef du gouvernement, Mustafa al-Kazimi, qui expédie les affaires courantes, a proposé hier soir un dialogue national avec les représentants des différents partis qui seront chargés d'élaborer une feuille de route pour une sortie de crise. Le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes est arrivé ce soir au large de la côte nord d'Istanbul, sur la mer Noire, partie d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, hier matin, avec 26 000 tonnes de maïs vers le Liban. Le Razzoni, un cargo sous pavillon Sierra Leone, doit passer la nuit au large de la Turquie et sera inspecté demain matin par une équipe internationale à l'entrée du Bosphore. Et voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Sans plus tarder, en résumé de l'actualité économique, la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Togo prévoit de dépenser 167 milliards de francs CFA pour construire 20 000 logements sociaux entre 2023 et 2025. Cela devrait coûter environ 50 milliards de francs CFA l'année prochaine, 52 000 milliards de francs CFA en 2023 et 64 milliards de francs CFA en 2024 et 2025. Une autre partie des fonds devrait finaliser le code togolais de l'urbanisme et de la construction. Au Mali, le ministère des Finances a tenu les conférences pour préparer le projet de loi des finances exercice 2023. Chaque ministère et institution expose devant la commission budgétaire la situation de l'exécution de son budget à mi-parcours, la programmation pour 2023 et enfin leurs projets d'investissement et leurs programmes. Pour terminer, le déficit commercial du Maroc s'est creusé de 48,7% pour atteindre 14,6 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année. Les importations ont augmenté de 44,2% par rapport à 2021, tandis que les exportations ont connu une hausse de 41,2%, a indiqué le régulateur marocain dans un rapport mensuel. La facture énergétique a augmenté de 124,7% alors que le coût des importations de blé a grimpé de 55%.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les champions d'Arabie Saoudite et d'Égypte vont inaugurer le stade qui accueillera la finale du Mondial au Qatar.
Oui, ce match opposera Al Hilal, champion d'Arabie Saoudite, la saison dernière, à l'équipe qui sera sacrée championne d'Égypte, le championnat égyptien étant toujours en cours. Cette rencontre sera la dernière étape de notre voyage avant le grand coup d'envoi le 21 novembre, a déclaré Hassan Al-Tawadi, secrétaire général du comité d'organisation du Mondial au Qatar. Le stade de 80 000 places est situé dans la nouvelle ville de Lusail, au nord de la capitale Doha. Il accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde. Avant l'inauguration officielle, un match de championnat du Qatar entre Al Arabi et Al Rayyan sera organisé le 11 août prochain.
Lancement de la candidature commune à 4 en Amérique du Sud pour le Mondial 2030.
L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont lancé leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ce mondial marquera le centenaire de la compétition dont la première édition a été disputée à Montevideo, capitale de l'Uruguay. L'officialisation de cette candidature commune a été faite au stade Centenario de la capitale uruguayenne où s'est jouée la finale de 1930 entre l'Uruguay et l'Argentine, remportée par les Uruguayens 4-2. La finale de 2030 serait disputée dans le même stade. En 1930, pour la première édition, seules 13 équipes ont participé au mondial. En 2030, il y aura 48 équipes.
Basketball, l'entraîneur de l'équipe de France ouvre la porte à l'intégration de Joël Embiid.
Quand il sera complètement sélectionnable pour des raisons de papier et physique, je ne vois pas pourquoi on ne le sélectionnerait pas, a affirmé Vincent Collet. Joël Embiid, l'un des joueurs vedettes de la NBA 5 fois All-Star, a obtenu la nationalité française le 4 juillet, ce qui ouvre la voie à une possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Il doit encore obtenir son passeport français et la licence FIBA qui pourront lui permettre d'être sélectionnable en équipe de France. Il aurait souhaité jouer l'Euro du 1er au 18 septembre, a ajouté le manager général des Bleus, Boris Diaw.
Jugée en Russie, la basketteuse Brittany Griner espère rentrer à la maison.
Oui, c'est ce qu'a déclaré l'avocate de la star américaine du basket féminin en procès en Russie pour trafic de cannabis. Moscou et Washington négocient un échange de prisonniers. L'avocate précise que le procès devrait se terminer très bientôt, Jeudi, il y aura les derniers débats, donc le verdict tombera très rapidement, ajoute-t-elle. Arrêté en février avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, en arrivant à Moscou, Brittney Griner risque 10 ans de prison pour contrebande de drogue. La double championne olympique dit avoir apporté cette substance en Russie par inadvertance et refute tout trafic de stupéfiants.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Mille fois merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur la nouvelle qui fait la une depuis hier soir, l'annonce du président américain de la mort du chef d'Al-Qaïda à Kaboul, la capitale afghane. Joe Biden a indiqué que les États-Unis ont tué Ayman al-Zawahiri après avoir donné l'approbation finale à la frappe de haute précision menée au cours du week-end. Qui était l'Égyptien Ayman al-Zawahiri? Élément de réponse avec Yacouba Ouedraogo.
Justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Les gens du monde entier n'ont plus à craindre ce tueur vicieux et déterminé. Les États-Unis continuent de démontrer notre détermination et notre capacité à défendre le peuple américain contre ceux qui cherchent à nous faire du mal.
Le président Joe Biden annonça hier la fin du numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Justice américaine pour celui qui était considéré comme le planificateur des attentats djihadistes aux États-Unis et dans le monde. Il a grandi dans un foyer confortable au Caire avant de se tourner vers l'islam radical et violent. Zawahiri était le médecin personnel d'Osama Ben Laden, chef historique d'Al-Qaïda, apparaissant tout le temps à ses côtés. Il était considéré comme le cerveau des attentats terroristes et aurait planifié les attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en août 1998, qui ont fait 224 morts, de même que l'attaque contre un navire américain au large du Yémen qui a tué 17 marins américains en 2000. Avec Osama Ben Laden, leur haut fait reste les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait plus de 3000 morts aux États-Unis. Al-Zawahiri a pris la tête du groupe Al-Qaïda en 2011, après la mort de Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan. Héritant d'une organisation affaiblie, il a dû pour survivre multiplier les franchises de la péninsule arabique au Maghreb, de la Somalie en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde et les États-Unis avaient mis à prix sa tête pour 25 millions de dollars à quiconque fournirait tout renseignement permettant de le retrouver. Zawahiri apparaissait néanmoins dans des vidéos de propagande comme en 2011 lorsqu'il parlait de la présence américaine en Syrie.
Washington cherche aujourd'hui à remplacer Assad, qui a fidèlement cherché à protéger les frontières de l'entité sioniste, avec un nouveau régime qui dilapide votre révolution et la guerre sainte, suivre l'Amérique et prendre soin des intérêts d'Israël.
La mort de Zawahiri intervient après que Al-Qaïda a perdu en août 2020 son numéro 2, Abdullah Ahmed Abdullah, tué dans les rues de Téhéran par des agents israéliens lors d'une mission secrète commanditée par Washington, information révélée par le New York Times. Aucune certitude sur qui va diriger maintenant le groupe djihadiste, mais déjà le président américain a prévenu le futur patron d'Al-Qaïda.
Nous le réaffirmons clairement ce soir. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront.
La mort de Zawahiri intervient près d'un an après le chaotique retrait des forces américaines d'Afghanistan qui a permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays après 20 ans d'occupation américaine.
Au Kenya, l'organe de surveillance pour la cohésion ethnique a exhorté Facebook à supprimer des propos haineux sur sa plateforme, sous peine d'être suspendu. Des ministres kényans affirment toutefois que le gouvernement n'a pas l'intention d'interdire le géant des réseaux sociaux. Le pays tient une élection présidentielle le 9 août. De Nairobi, le point avec Victoria Amunga. Son reportage est relaté par Eric Manirakiza.
La menace de la Commission nationale pour la cohésion et l'intégration du Kenya intervient après la publication d'un rapport du groupe de défense des droits Global Witness. Il accuse Facebook d'avoir autorisé des publicités incitant la violence ethnique en vue des élections du 9 août. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a toutefois accusé cet organisme de surveillance d'avoir pris ce qu'il a appelé une décision irréfléchie, assurant que la plateforme ne serait pas fermée. Le ministre de l'Intérieur et des Technologies, Joe Mucheru, a fait écho à cette promesse lors d'un entretien téléphonique avec VOA lundi. Il a déclaré que si les questions soulevées sont valables et ne justifiaient pas le blocage de Facebook.
Ce que je n'ai pas soutenu, c'est l'idée que parce que quelque chose comme cela s'est produit, le premier recours est de fermer une plateforme. Cela ne fait pas partie de notre mandat légal. Et nous avons travaillé avec Facebook et de nombreuses autres plateformes. Facebook, par exemple, a supprimé plus de 37 000 commentaires incendiaires pendant cette période de campagne électorale.
Dans une déclaration de la semaine dernière, Facebook a admis avoir remis des messages et d'incitation à la haine au Kenya, où les données nationales font état d'environ 13 millions d'utilisateurs de la plateforme. Un porte-parole de la société mère de Facebook, Meta, a imputé à l'erreur humaine et à l'erreur de machine le fait d'avoir remis certains contenus incendiaires et a déclaré qu'ils ont pris des mesures pour empêcher de tels contenus. La commission de cohésion du Kenya a déclaré que les élections de cette année avaient été marquées par une diminution des discours de haine. ONG et société civile kenyane ont appelé mardi à des élections pacifiques et transparentes, à une semaine d'une présidentielle au Kenya qui a été plusieurs fois meurtrie par des violences préélectorales et des contentieux post-électoraux.
Washington, la voix de l'Amérique.
Au Gabon, confronté au chômage élevé dans le pays, des jeunes en difficulté ont monté leur propre atelier de menuiserie et ébénisterie. L'association des jeunes combattants pour le développement est née de la volonté de ses membres de sortir de la délinquance juvénile et de l'oisiveté. À la découverte du fabuleux destin de ces jeunes du quartier PK7 de Libreville, c'est le reportage de notre correspondant Ismaël Obiorungze.
À la tête de l'association des jeunes combattants pour le développement du Gabon, Jude Kumba Mambou a connu une expérience difficile de la rue. De simple débrouillard dans les gares routières, il est parvenu à s'offrir une formation en mécanique auto. Faute d'emploi à temps plein, il s'essaye enfin dans les bénisteries. C'est ici au quartier PK7 à Libreville que son destin a croisé celui d'autres jeunes du même corps de métier.
Je me suis lancé avec mes frères en leur regroupant, en leur disant que bon, vous êtes des techniciens, pourquoi continuer encore à travailler pour nos confrères expatriés? Pourquoi ne pas travailler pour nous-mêmes afin que nous puissions survenir à nos propres besoins personnels? Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés en association. En premier temps, nous avons commencé à réaliser un salon appelé deux salons. Avec la suite, nous avons fait sortir les lits.
Jules et ses camarades ont donc monté un atelier de fabrication de meubles. Un projet qui fonctionne grâce à l'expertise des dizaines de jeunes autrefois en conflit avec la loi ou simplement en difficulté sociale. Loïc Tsamba, coordonnateur de l'association, nous présente quelques membres de l'atelier.
Voilà déjà Nicolo Darren, c'est un technicien. En même temps, il est membre du bureau actif de l'association, chargé de la logistique. En même temps, aussi formateur. Ici, nous avons les adhérents. Nous avons notre jeune frère, ici déjà, une semaine sorti de prison. Depuis la prison, il a écouté nos échos. Il a grandi avec nous au quartier. Et c'est un jeune, quand il est arrivé, il s'est directement lancé avec nous. Il s'est inscrit dans l'association et il veut devenir technicien pour changer de vie.
Ce travail d'équipe est en passe de changer leur vie. Rodestin Mukana Malela s'est fait un métier, celui de tapissier.
Pour être un homme qui a la valeur, il faut avoir d'abord un métier. Ce que j'ai aimé, pourquoi? Parce que de savoir que j'ai acquis avec mes confrères expatriés, que je suis en train de donner ce même savoir ici à certaines personnes qui sont au sein de l'association.
Pour s'assurer une bonne organisation de ces activités génératrices de revenus, le bureau de l'association s'est offert les services de Dan Mungwanda, leader du mouvement de jeunesse.
Lorsqu'ils se sont engagés à se dire désormais il faut qu'on se prenne en charge, je me suis dit oui, il faut bien que l'on les accompagne. parce que c'était des jeunes, ils étaient figés dans la loisirité, le vin, beaucoup de choses.
En route pour leur autonomisation économique et financière, les membres de l'association des jeunes combattants pour le développement du Gabon misent sur leurs atouts collectifs et individuels pour relever le défi de l'entrepreneuriat des jeunes au Gabon. Libreville, Ismaël Obiancé pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les vacances scolaires ont débuté. C'est un temps de repos et de loisirs pour les étudiants et élèves. Mais certains jeunes en profitent pour joindre l'utile à l'agréable à travers des activités pouvant les occuper sainement, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Pendant les vacances, élèves et étudiants s'adonnent à plusieurs petites activités pour se faire un petit pactole pour préparer la prochaine rentrée scolaire ou pour soutenir leurs parents. Jean-François, élève en seconde C, travaille dans un maquis à Bobo sans manquer.
Je vends de la boisson. J'ai décidé pour faire une activité pendant les vacances parce que mes parents n'ont pas les moyens.
Bamba Fousseni, étudiant en première année d'histoire géographie à l'université Nangui à Broboa d'Abobo à Djamé et vendeur dans un magasin de mèches à Djamé-Saint-Michel.
La rentrée, ça me permet de me dépanner un peu au niveau du transport, des fascicules, pour diminuer les dépenses au niveau de la famille, puisque je pense que nous sommes une famille nombreuse.
Pour Adjaka Koulibaly, qui vient d'avoir son BEPC comme job de vacances, elle est serveuse dans le restaurant chez Maman Fatou à Boribana, dans la commune d'Atikoubi.
Je n'ai pas honte parce que c'est pour mon bien. Je cherche mon argent qui a eu mon décès. Je peux m'orienter au privé parce que les privés qui sont des riches. Mes parents m'ont fait privé. Je peux les aider aussi.
Se rendre utile et se faire un peu d'argent. Awa Koulibaly prête ses services dans ce lieu réputé de vente de poulets et de poissons braisés à l'espace Figayo dans la commune de Yopougon.
On me fait 20 000 par mois. Pendant les 3 mois, j'ai 60 000. Et cet argent, je prends ça pour aider mes parents à payer mes fournitures, à faire mes courses personnelles. Donc, job de vacances est une bonne chose. J'encourage mes camarades à le faire.
Mais une motivation qui mobilise pas tous les jeunes. Pascaline Goué est étudiante en lettres modernes.
Les jobs de vacances, je ne vois pas ça trop nécessaire. Parce que souvent, ça pousse même d'autres à ne plus fréquenter. Quand ils prennent le goût de l'argent, c'est fini. Ils veulent en même temps rester dans ce travail-là. Ils ne veulent plus aller à l'école.
Cette initiative de certains élèves et étudiants est encouragée par des parents comme Yakuba Konati.
Le job de vacances, ça permet à l'enfant de connaître les dures réalités de la vie, savoir que les parents souffrent pour assurer leur scolarité.
Des actions qui méritent tout de même d'être encadrées, selon le sociologue Jules Yaoukonan.
Il y a un certain nombre de jobs de vacances dans lesquels les jeunes essaient de s'insérer, qui peuvent aussi être des causes de dérive plus tard chez ces jeunes. Donc il va falloir discerner et essayer de faire fonctionner, à mon sens, les brigades des mœurs.
Et en attendant la rentrée scolaire, les jeunes semblent tirer profit de ces vacances. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des opérations de maintien de la paix en Afrique. La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans l'est de la RDC, où des manifestations anti-MONUSCO ont fait des victimes parmi les populations et les casques bleus. Les protestataires reprochent à la force onusienne d'être inefficace face aux multiples groupes armés dans la région. Au Mali aussi, la mésentente entre Bamako et Abidjan a relancé le débat sur la présence de l'ONU dans le pays. Qu'est-ce qui explique ces tensions avec les missions onusiennes? Quel est leur avenir sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Tagneau. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. L'information continue sur les bandes FM de VOA Afrique, de même que sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une très belle soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
ces façons-là, ça peut me tuer.